Bonsoir, merci d'être là pour cette deuxième séance. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi la biologie est une science sociale et pourquoi elle a des relations intéressantes avec le pouvoir. Alors, on va vous donner deux raisons pour lesquelles la biologie est une science sociale. La première, c'est... On va vous parler de sociobiologie et c'est la biologie comme étude des sociétés et étude des bases biologiques, hein, des comportements sociaux. Et la deuxième, c'est parce que suite à la sociobiologie aussi, c'est une science qui a une influence sociale et une science qui va tenter de prendre le pouvoir. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi, comment se passe ce glissement d'une science à une science dominatrice, puisque c'est le thème de la soirée d'aujourd'hui, et de résultats scientifiques à un agenda politique.
Donc oui, et c'est moi qui vais commencer... en vous parlant un petit peu de la sociobiologie et de ses applications, ou enfin de sa théorie, disons, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, j'ai cherché quelques supports qui sont vraiment pour soutenir mon discours. Effectivement, la sociobiologie, c'est définie comme la discipline scientifique qui étudie les comportements sociaux et leur évolution chez les animaux, y compris l'humain. Donc, comportements sociaux, ça veut dire en fait quasiment n'importe quel comportement qui implique une interaction avec des congénères. Par exemple, il y a tout un tas de comportements qu'on peut qualifier d'égoïste, qui en savent très bien dans le cadre de la théorie de l'évolution. C'est très facile d'expliquer des comportements égoïstes du point de vue de la théorie de l'évolution, puisque vous savez que le principe de la théorie de l'évolution, c'est les individus qui se reproduisent le mieux sont ceux qui vont finalement avoir leurs gènes représentés dans les générations futures. Donc, en agissant de manière égoïste, je peux, de manière assez naturelle, augmenter mes chances de reproduction dans le futur, ça se comprend assez facilement. Alors, un exemple de comportement égoïste adaptatif, c'est quelque chose de très analogue à ce que vous savez sans doute existe chez certains félins, chez les lions par exemple. Quand un lion arrive à détrôner un autre lion dans un tirage de femelles, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tuer les petits. Chez la souris Nus musculus, en fait, il y a quelque chose de très analogue. Et ce qui est assez marrant dans la biologie des comportements, c'est qu'on va jusqu'à une explication physiologique du comportement, c'est-à-dire que on peut montrer que un mâle qui a copulé va pendant une période d'à peu près 3 semaines, qui correspond à peu près au temps de développement d'un embryon de souris, pendant cette période, il va être très agressif envers les petits. Et puis, après cette période, eh bien, il va avoir un comportement complètement inverse à ça. Son comportement va être au contraire de soin aux petits. Et donc ça, on voit tout à fait qu'il doit exister. Que ça peut aller avec un scénario évolutionniste, évolutif, d'adaptation. Je ne veux pas je suis un rat, je ne veux pas, enfin je suis une souris en l'occurrence, je ne veux pas m'investir dans des petits qui ne sont pas miens. Par contre, j'essaie de maximiser mes chances de m'occuper de petits qui sont miens. Donc les comportements égoïstes, ça s'explique de manière relativement simple, comme ça. Mais, et la sociobiologie permet d'expliquer tout un tas de comportements de cette nature. Une des choses qui est vraiment très intéressante et qui a vraiment posé les bases de la sociobiologie, c'est l'explication des comportements altruistes. Donc, l'altruisme, c'est un comportement qui se fait au détriment de l'acteur, mais au bénéfice du receveur. C'est-à-dire, éventuellement, l'altruisme extrême, c'est donner sa vie pour sauver quelqu'un. Et ça, en fait, on observe des cas d'altruisme dans le monde animal, notamment. Ça, ça a toujours été un problème à expliquer du point de vue de la sélection naturelle. D'accord ? Parce que on ne comprenait pas pourquoi un individu pouvait se sacrifier pour un autre individu. Hein, c'est complètement contraire à l'idée de laisser une descendance et de lui permettre de proliférer. Donc là, par exemple, ça, cet exemple-là, c'est l'exemple de suricate, c'est des petites, enfin, genre de marmottes qu'on trouve en Afrique du Sud, et là, vous avez un comportement dans lequel il y a un groupe, et puis la plupart des individus sont en train de se nourrir, mais il y a des individus qui font les sentinelles, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un comportement altruiste parce que eux ne se nourrissent pas, ils font le poireau sur une pierre en hauteur, en plus ils sont en évidence par rapport aux prédateurs, et là, ils font la vigie et ils vont prévenir leurs congénères si jamais il existe, si jamais il y a un danger. Un autre cas d'altruisme qui est assez intéressant, qui se passe là vraiment au niveau cellulaire. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Hein. Alors, c'est le cas d'une amibe qu'on dit amibe sociale, Dictyostelium. C'est un microbe très intéressant qui vit, disons, la plupart du temps dans la première phase, la phase qui est là-haut, qui est, on dit, végétative. C'est une phase unicellulaire où, où l'organisme vit de manière solitaire et se nourrit comme ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que si jamais les ressources viennent à manquer, on a un comportement très intéressant, c'est que les cellules vont se mettre à s'agglomérer et à former petit à petit une espèce de petit champignon là que vous voyez à droite. Donc il y a tout un tas de cellules qui se mettent ensemble, c'est des milliers ou des millions de cellules, un champignon comme ça. Et non, c'est peut-être des milliers de cellules. Et donc il y a des cellules qui vont faire la base, il y a des cellules qui vont faire le pied, et puis il y a des cellules qui vont faire en haut le petit chapeau, et le petit chapeau c'est ce qui va se poriller. D'accord, en fait c'est une manière de disséminer, parce que voilà, on est dans un endroit où il n'y a plus de ressources, il faut faire une forme qui, il faut pour survivre, faire une forme qui va pouvoir être disséminée. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de faire un petit champignon, en tout cas la manière qu'ils ont trouvé, c'est de faire ce petit, cette petite tourelle en haut de laquelle les cellules qui sont là vont se poriller et vont être disséminées par le vent pour éventuellement trouver une nouvelle chose. Donc c'est de l'altruisme parce que on observe qu'il y a des cellules qui acceptent finalement de former le pied, de former la tige, pour que d'autres cellules aille former la partie qui va se corriger.
C'est aussi un paradoxe.
Et ça, en fait, c'est un paradoxe qu'on peut expliquer. J'aurais bien voulu un sujet en français, c'est parfait. C'est un paradoxe qui s'explique, en fait. Je vous ai mis cette slide-là avant, j'aurais pu... Donc, disons que je vais vous présenter ça comme une observation, plutôt. Si jamais on va mélanger des cellules qui, en fait, appartiennent à des souches différentes de la même espèce, des choses qui sont relativement distantes génétiquement, ce qu'on va voir, c'est que et on va avoir des corps qui vont se former, mais ces corps vont se former soit avec, soit avec très peu. En fait, on va avoir une séparation des cellules. C'est-à-dire que.
Ouais, tu veux que je fasse ça là? Donc, on a une séparation des cellules, en fait. Ça, c'est le pourcentage de cellules. On marque un des deux types de cellules. Et on voit que. Donc, ça, c'est un contrôle où les souches sont homogènes. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on fait ça, on a des corps qui se forment, mais ils sont à quasiment 100% d'un type de cellule et à 0% de l'autre type.
Donc on a, et en fait, on peut montrer que quand on oblige les cellules à faire des corps, des fruiting bodies, on appelle ça, des petits champignons. Ce champignon est moins haut et donc ça marche beaucoup moins bien. Et la manière dont on peut expliquer ce type de comportement, c'est notamment en invoquant un niveau de sélection qui est en dessous de l'individu, qui est le niveau du gène. Donc la semaine dernière, je vous ai entendu parler, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé, l'idée de groupe et de bien de l'espèce, etc. On a vu que c'était un souci des eugénistes de travailler pour le bien de l'espèce. Donc c'est assez rigolo, en fait, que ce soit quelque chose qui soit invoqué. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu à la raison pour laquelle vous voulez le bien de votre espèce. Il se trouve qu'en fait, on peut montrer qu'en biologie, on peut avoir éventuellement de la sélection de groupe, mais c'est vraiment très très rare, des situations très très particulières. Grosso modo, c'est quelque chose qui est quasiment complètement maintenant qu'on n'utilise plus du tout pour les théories évolutives. On peut voir la sélection au niveau de l'individu, mais c'est surtout au niveau des gènes que ça se passe. Et l'idée, c'est que chaque organisme est composé de gènes. Ces gènes s'expriment et ces gènes ont un effet. Ils ont un effet qui peut être morphologique, hein, vous avez la couleur des yeux, etc. Mais ils peuvent avoir un effet sur un comportement. Et ce qu'on imagine, c'est que s'il existe un gène qui induit un comportement altruiste de son porteur envers ses apparentés, ça veut dire que ils ont des gènes en commun avec lui, et donc ils ont une probabilité relativement élevée de contenir eux-mêmes ce gène. Donc si un gène est capable d'induire un comportement altruiste envers des apparentés, à ce moment-là, il peut augmenter sa fréquence dans la population via les organismes qui bénéficient de ce comportement actif. Et ça, c'est vraiment ça qui a débloqué toute l'idée de la sociobiologie. Il y a d'autres idées, mais ça c'est vraiment une idée très importante. C'est que, en fait, la sélection se passe au niveau du gène, et le gène reste égoïste, ce qu'on appelle ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, la théorie du gène égoïste. Le gène reste égoïste, c'est-à-dire que si on veut avoir une vision finaliste, il travaille à sa propre reproduction, mais éventuellement sa propre reproduction peut être favorisée par des comportements altruistes au niveau des individus qu'il porte. Et ce concept, il a été mathématisé, c'est ce qu'on appelle la règle de Hamilton, qui dit que, en fait, on va avoir un comportement altruiste si le degré d'apparencement qu'on a avec l'organisme qui bénéficie du comportement, multiplié par le bénéfice qu'aura cet organisme, est supérieur au coût. Donc ça, c'est ce que je disais, ça veut dire que dans certains cas, les individus peuvent se transmettre des copies de leurs gènes, non seulement en se reproduisant, mais aussi en favorisant la reproduction d'individus apparentés, des sœurs, des frères, des cousins. Ça, ce que ça a permis de faire, c'est notamment d'expliquer... Je vais peut-être aller un petit peu plus... Non, pas. Ça a permis d'expliquer quelque chose de très important qui est les structures sociales chez les insectes, ou en tout cas chez un grand groupe d'insectes qui est celui des hyménoptères, dans lequel on a un système génétique qui est tout à fait particulier, qui fait que donc vous savez que vous, du point de vue génétique, vous transmettez la moitié de votre patrimoine génétique à vos enfants, et puis votre conjoint transmet l'autre moitié, enfin, transmet aussi une moitié. Super. Donc, de la même manière, chez les abeilles et chez les fourmis, donc les guêpes, etc., chez les hyménoptères, la reine produit des gamètes, des ovules qui contiennent la moitié de ses gènes. Elle est donc reliée avec un R de 0,5, d'un demi, à ses filles. Et par contre, une chose très particulière dans ce groupe, c'est que les mâles sont, on dit, haploïdes, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule copie de leur gène. Donc eux ne vont pas transmettre la moitié de leur gène, ils vont transmettre tout leur gène à leurs descendants. Ce qui fait que on arrive dans un cas vraiment étonnant où la mère partage seulement la moitié de ses gènes avec sa descendance, alors que les sœurs partagent en fait tous les gènes qui viennent du père, donc plus, en fait elles ont une chance sur deux d'avoir reçu les mêmes gènes de leur mère, en fait, elles ont un coefficient de parenthèse, on dit, de 3/4. Donc, ce qui se passe chez ces insectes, c'est que les sœurs sont plus fortement apparentées au niveau de leur génome que les mères ne sont au nourrir. Et donc on voit que dans ce cas-là, on peut comprendre qu'une ouvrière, si elle a le choix, ou un individu, s'il a le choix entre devenir une reine, fonder sa colonie et avoir des filles, ou rester dans la colonie et élever ses sœurs, eh bien, en fait, il peut choisir, et en fait c'est ce qui se passe, il peut choisir d'élever ses sœurs parce que c'est une meilleure manière de transmettre ses gènes. Transmettre plus de ses gènes en ayant ce comportement. Donc la sélection de parentèle, ça marche assez bien chez les insectes, on pourra discuter, il y a des cas particuliers, c'est des choses... mais ça marche partout, en fait. Hein, donc ça explique ce qu'on appelle l'aspect envers sa progéniture, les soins parentaux. Et ça explique, voilà, d'une manière générale, l'altruisme envers des apparentés. Et donc, chez plein d'organismes, y compris chez les mammifères. Une autre chose qui a été très importante pour le développement de la sociobiologie, c'est l'explication de l'altruisme entre non-apparentés. Donc, il existe des comportements, voilà, du type « si je te gratte le dos, tu me grattes le dos ». Et ça, un exemple très très marquant chez les animaux, c'est le cas des chauves-souris vampires. Ça, je vous ai peut-être, c'est ceux qui viennent ici depuis longtemps, en ont peut-être déjà entendu parler. Il me semble qu'on en avait parlé il y a très longtemps. C'est des organismes qui sont très sociaux, qui vivent en colonie, en général à l'intérieur d'un tronc d'arbre, comme ça. Et puis, il y a des positions qui sont très fixes dans l'arbre. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu tout le temps les mêmes voisins. Et ce qu'on observe, c'est des comportements de régurgitation du sang entre voisins. C'est-à-dire que, en général, c'est des animaux qui sont nocturnes, qui sortent la nuit pour se nourrir, hein, vous savez, comme tous les vampires. Ils vont trouver un animal ou un être humain s'ils peuvent, mais non, en général, c'est plutôt des animaux. Ils leur sucent le sang et ils reviennent à la colonie. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on sait que c'est des organismes qui ont un métabolisme très élevé, et si pendant une nuit, ils ratent une proie, s'ils ne trouvent pas de proie pendant une nuit, ils ont une très forte probabilité de ne pas arriver à la nuit prochaine. Donc il faut absolument avoir un petit repas de sang par jour. Et donc, ce que font les chauves-souris vampires, c'est qu'elles se partagent les repas qu'elles ont eus. Et elles le font, en fait, de manière réciproque. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, elles sont voisines dans la colonie. Et elles se trouvent donc de manière répétée l'une à côté de l'autre et en fait un individu va éventuellement dépanner son voisin pour une nuit et en échange la nuit d'après on aura un comportement réciproque. Donc ça c'est quelque chose de vraiment intéressant et ça pose le problème des tricheurs en fait. Ça pose le problème des individus qui ne coopèrent pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut une reconnaissance individuelle et une mémoire des interactions passées. Et ça correspond, en fait, pas tellement la mémoire, mais en tout cas, cette situation biologique, ça correspond à ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier en théorie des jeux. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en familier de ça. Donc, l'histoire du dilemme du prisonnier, c'est vous vous êtes fait piquer avec un copain complice dans un endroit où vous n'aviez pas le droit d'être, où il y a eu un crime, et on vous interroge de manière séparée. Et le policier vous propose un deal, il vous propose soit de dénoncer votre acolyte, auquel cas... par exemple, si vous êtes le joueur jaune, là, si vous êtes jaune, vous pouvez dire, ok, c'est nous, mais lui, c'est lui qui m'a entraîné, etc. Auquel cas, vous sortez, et lui, il prend 20 ans. Il prend 20 ans s'il a rien dit. S'il a choisi de rester silencieux et de dire, non, je dénonce personne. Par contre, vous choisissez de rester silencieux et que lui vous dénonce, à ce moment-là, c'est vous qui prenez 20 ans, évidemment, et lui qui sort. Si tout le monde reste silencieux, en fait, les preuves contre vous sont assez faibles et vous prenez tous les deux un an. Et si tout le monde confesse, si tout le monde s'accuse, eh bien, tout le monde prend une peine assez lourde, mais ce n'est pas tout à fait équivalente à celle que vous auriez si vous refusiez de vous confesser. Ça correspond un peu à ce qu'on peut attendre d'un tel dilemme. Probablement le deal sera quelque chose comme ça. Et en fait, il y a plein de situations biologiques qui s'apparentent à ce type de dilemme, qui peuvent se modéliser par ce type de dilemme. D'accord ? Par exemple, les fouillages, je t'épouille, je passe du temps à t'épouiller, mais j'attends de toi que tu m'épouilles après. Si tu ne m'épouilles pas, j'ai juste perdu le temps que j'avais à t'épouiller, et puis donc j'ai tout perdu, alors que celui qui est en face, qui s'est fait épouiller sans donner le comportement en retour, lui a tout gagné. Et puis il existe un compromis qui correspond à cet état-là, hein, qui est celui où tout le monde coopère, tout le monde travaille ensemble, et là c'est en fait le gain maximum sur les individus dans la matrice. Mais par contre, si vous êtes égoïste dans un tel jeu, la meilleure chose à faire, c'est toujours de tricher, en fait. C'est toujours d'être, en l'occurrence, de vous confesser, parce que c'est toujours comme ça que vous minimisez votre perte. C'est-à-dire que vous prenez le danger. D'accord ? Si vous choisissez de rien dire, vous risquez de prendre 20 ans. Vous pouvez tout à fait vous retrouver là, mais ça veut dire faire confiance à l'autre. Et ça, c'est risqué. Et donc, si vous jouez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, la meilleure stratégie à adopter, c'est de dire « je confesse » ou, dans une autre formulation idéale de prisonnier, de dire « je triche ». Donc, les deux choix, en l'occurrence, si on veut se mettre dans quelque chose d'un peu général en biologie, c'est coopérer ou tricher. Et dans une interaction unique, la meilleure stratégie, c'est toujours de tricher. C'est le comportement rationnel. Donc, on n'est pas très avancé parce que c'est pas très intéressant, ça explique pas tellement l'évolution des sociétés ou l'évolution des comportements sociaux, sauf si, en fait, on est amené à rejouer avec le même partenaire. Et ça, c'est le cas, par exemple, de l'épouillage que je vous racontais tout à l'heure. Si vous êtes amené à jouer avec le même partenaire, à ce moment-là, les stratégies peuvent changer. C'est-à-dire que, vous pouvez choisir de tricher tout le temps, et à ce moment-là, ça va aller si vous êtes avec d'autres organismes qui, eux, coopèrent tout le temps. Hein, vous pouvez être avantagé dans une population où tout le monde est coopérant, mais si vous voulez, si ce caractère est génétiquement déterminé, vous avez un avantage à tricher, mais vous allez vous répandre dans la population, enfin vos gestes de gêne va se répandre dans la population, et au bout d'un moment, il n'y aura plus que des tricheurs. Et donc, c'est une stratégie qui peut se stabiliser, mais elle n'explique rien en termes de coopération. Et puis, elle n'est pas tellement gagnante, en fait. Il y a la stratégie qu'on dit... c'est ce qu'on appelle, en fait, la stratégie faucon, la stratégie qui consiste à tricher tout le temps. Il y a la stratégie colombe, qui est l'inverse, qui consiste à coopérer tout le temps. Donc ça va très bien si vous êtes que avec des colombes. Mais s'il y a des faucons qui arrivent, à ce moment-là, les faucons sont avantagés et hop, ils gagnent la bataille et ils se répandent dans la population et évidemment, vous avez que des faucons. Donc ces deux stratégies-là, c'est deux stratégies de base. Mais après, on se rend compte qu'une stratégie qui existe beaucoup dans la nature, c'est ce qu'on appelle la stratégie tisse-portage ou donnant-donnant. Et donc ça, c'est une stratégie qui consiste à coopérer la première fois que vous rencontrez un individu et ensuite rejouer la même chose qu'il a joué autour d'avant. C'est-à-dire que la première fois que vous coopérez, si lui triche, la fois d'après vous trichez. Par contre, s'il a coopéré, la fois d'après vous coopérez. Donc ça, ça veut dire dans une situation où vous êtes dans une population de colombes, bah vous pouvez vous répandre de la même manière que les colombes. Par contre, une fois que vous êtes, si jamais vous êtes dominant dans la population, si jamais les six portables sont dominants dans la population, ils ne peuvent pas être envahis par des tricheurs, par des faucons. Et ça, donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que ça fait qu'on peut expliquer le maintien d'une société altruiste, d'une société avec des comportements altruistes, tout simplement par cette idée de réciprocité et de rejouer avec les mêmes partenaires. Et donc, en l'occurrence, ça explique très bien ce qui se passe chez les chauves-souris. On montre que si on introduit artificiellement un individu qu'on met pas à sa place dans la colonie, eh bien, ces voisins ont refusé de coopérer avec lui parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas établi la relation de confiance qui est nécessaire à l'échange de sang. Et donc voilà, là je vous ai expliqué deux grandes théories qui font les bases de la sociobiologie. Il y en a d'autres, on pourrait en discuter. Il y a l'histoire des conflits parents-enfants, etc. Il y a des choses un petit peu croustillantes, mais on peut d'autres choses un petit peu croustillantes, mais on pourra en parler. Mais maintenant, je vais venir à vous parler un petit peu d'Homo sapiens, parce que pour l'instant, je vous ai parlé que d'animaux. Évidemment, vous voyez, même en vous expliquant, là, je ne peux plus m'empêcher de prendre des analogies avec la société humaine. Et tout ça, c'est évidemment très tentant de l'appliquer à l'homme. Et en fait, il y a une raison évidente pour laquelle on peut l'appliquer à l'homme, c'est que dans le grand arbre de la vie, vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes un organisme, nous sommes une espèce parmi des millions d'autres sur la planète, hein, on est et voilà, on est le genre homo, des hominidés, dans le groupe des primates, dans l'ordre des mammifères, nous sommes des tétrapodes, des vertébrés, des métazoaires, des eucaryotes et enfin des organismes cellulaires. Donc on s'inscrit complètement dans tout ce monde que je vous ai décrit et donc il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle on pourrait échapper à ça. Donc ça c'est juste pour vous résumer un petit peu dans l'arbre. On a une diapo que j'ai piquée la dernière. Et donc voilà, l'homme c'est un singe parmi les autres. Donc des théories qu'on n'a pas de mal à appliquer aux singes, il n'y a pas de raison pour qu'on ne les applique pas chez l'homme. Et en fait, on sait que la sélection naturelle, ça marche chez l'homme. Par exemple, ici, je vous montre quelque chose qui est une comparaison des fréquences des gènes qui codent pour l'enzyme qui digère l'amidon, qui s'appelle l'amylase, dans les génomes de différentes populations humaines. Et ce qu'on voit, c'est que dans les populations mondiales, dans les populations dans le monde où on a un régime qui est pauvre en amidon, eh bien, il y a moins de gènes dans le génome qui codent. Vous voyez la distribution rouge là, elle est plus à droite que la distribution grise. Donc, il y a moins de gènes qui codent pour l'amylase dans les populations qui ont des régimes pauvres en amidon que dans les populations type japonaises ou européennes où, en fait, on mange énormément de céréales. D'accord ? Et ça veut dire, c'est à mettre en liaison avec l'agriculture. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est de la sélection qui a eu lieu dans les quelques derniers milliers d'années d'évolution des espèces. C'est vraiment une évolution récente. Donc la sélection naturelle, ça marche chez l'homme. Et donc, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça marche aussi pour expliquer l'altruisme. Hein, et on peut citer Holden qui était un grand généticien du XXe siècle qui disait, qui à la question « Donneriez-vous votre vie pour sauver votre frère de la noyade ?» disait non, mais je le ferais pour deux frères ou pour huit cousins. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, que vous partagez la moitié des gènes, de vos gènes avec votre frère, c'est à deux frères, ça fait 100% de vos gènes en probabilité. Et puis, vous avez un huitième de vos gènes en commun avec vos cousins. Donc, voilà, ce qu'il essaie de dire là, c'est une boutade, hein, c'est évidemment une blague. Mais il essaie d'expliquer ici cette théorie de l'altruisme. Donc ça, c'était juste pour appuyer le clou du self-esteem. Donc ce que dit Dawkins, c'est après 4 milliards d'années, ce sont devenus les anciens réplicateurs, donc les premières molécules qui ont été capables de se répliquer et de faire de la sélection naturelle, c'est-à-dire les gènes en fait. Ils ne sont pas morts puisqu'ils s'étaient passés maîtres dans l'art de la survie, mais ne cherchez pas à les voir flotter librement dans la mer. Il y a longtemps qu'ils ont abandonné cette liberté désinvolte. Ils fourmillent aujourd'hui en grande colonie, à l'abri de gigantesques et pesants robots, isolés du monde extérieur, communiquant avec lui par des voies tortueuses et indirectes, et le manipulant par commandes à distance. Ils sont en vous et en moi, ils nous ont créés corps et âme, et leur préservation est l'ultime raison de notre existence. Ils ont parcouru un long chemin, ces applicateurs, on les appelle maintenant gènes, et nous sommes leurs machines assurées. Donc c'est ça en fait que dit la sociobiologie, c'est par ça qu'essaye de passer la sociobiologie pour expliquer en fait de manière unifiée tous les comportements animaux et humains. Et en fait, cette ambition-là, elle remonte à en fait avant Wilson, mais c'est Wilson qui a fait une espèce de synthèse de tout ça pour proposer ce qu'il considérait comme une nouvelle science dans les années 70, enfin en 61. Et dans ce livre, il y a un chapitre, le dernier, qui s'appelle « L'homme de la sociobiologie à la sociologie » et qui veut expliquer les comportements comme des solutions optimales à des problèmes adaptatifs. Donc voilà quelques citations. Donc Eric va vous parler un peu de tout ça et de ses implications après. L'esprit humain est un dispositif pour la survie et la reproduction, et la raison est tout simplement l'une de ces différentes techniques. La raison, le raisonnement. Le comportement n'est pas écrit explicitement dans les gènes, et l'esprit ne peut pas être traité comme une simple réplique de traits comportementaux, mais les gènes déterminent un ensemble de processus biologiques, règles épigénétiques, qui permettent de diriger l'ensemble de l'esprit. Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est les gènes définissent un peu les possibles dans lesquels vous avez plus ou moins votre libre arbitre, mais il faut savoir quel est l'espace de ça. Donc du coup, il y a des choses dans ce chapitre qu'il explique qui vont peut-être vous parler. Par exemple, vous voyez en haut là un petit spermatozoïde. Elle est où ma flèche? Donc tout en haut là, vous avez un petit spermatozoïde à côté d'un ovule. Et ce que vous pouvez voir là, c'est que l'investissement qui est mis dans la reproduction par le mâle est complètement infinitésimal par rapport à l'investissement qui est mis par la femelle. Ça commence au niveau de l'ovule. Mais donc et puis ça s'arrête à peu près là chez les poissons par exemple ou les oiseaux etc. C'est déjà un investissement énorme par rapport à celui du mâle. Et puis après ça continue par la gestation éventuellement et puis les comportements qui suivent. Et donc, ce que dit Wilson, c'est que, cette asymétrie, en fait, elle explique tout un tas de comportements humains, hein, des caractères qui sont observés dans l'espèce humaine. Hein. c'est comme ça qu'il est, ou que les sociobiologistes, parce que c'est pas nécessairement Wilson, le présentent, hein, la taille maternelle des femmes, leur caractère casanier, leur timidité, alors que les hommes sont frivoles, éventuellement ils pratiquent le viol, et donc le but des mâles est de copuler avec le plus de femelles possible. En fait, c'est juste une des choses qu'on voit dans la littérature sur la sociobiologie, une des choses qu'on essaie d'expliquer, mais je vais vous parler de choses un petit peu plus, caricaturales. Sur le choix des partenaires, enfin c'est quand même un petit peu caricatural aussi, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de toutes ces choses sur le choix des partenaires, si vous lisez un peu la littérature sur CV, ou même des fois ça sort dans Elle, dans des choses comme ça. Comment on choisit les partenaires dans l'espèce humaine? Alors vous savez, par exemple, il y a la symétrie du visage, des choses comme ça qui interviennent, hein. On pense que, l'explication qui est donnée, c'est que un corps symétrique, par exemple la danse, etc., le fait de danser, le comportement de danse est vu comme une cour, évidemment, hein, c'est un comportement de cour, et le fait d'être capable de bien danser, c'est interprété comme une manière comme un indice de bon développement, etc. Ça veut dire que vous portez des bons gènes et donc que vous êtes un bon partenaire. Et puis il y a cette histoire du système immunitaire. Donc le système immunitaire, il est en partie codé génétiquement, en partie inné. Puis ensuite il peut varier, il peut s'adapter, mais via un locus dans le génome, une région en génome qu'on appelle HLA, qui est en fait très diverse dans l'espèce humaine. Et la raison qu'on invoque pour cette diversité, c'est la capacité à détecter de manière innée une grande variété de parasites. Et en fait, on peut montrer que chez la plupart des vertébrés, disons, enfin chez pas mal de mammifères et même chez les vertébrés, chez les poissons par exemple, on a un choix des partenaires qui se fait en fonction du HLA, en tout cas de manière non indépendante du HLA, c'est-à-dire que les individus ont tendance à préférer des organismes qui leur sont plus différents qu'attendus par eux. Et ça, on pense que chez l'homme, ça existe. Il y a des études qui ont été faites. Hein, ça va de sectes un peu communautaires dans lesquelles on a étudié la manière dont les couples étaient formés à des questionnaires de préférence chez les étudiants du campus d'Albuquerque. Donc il y a tout un tas d'études un peu statistiques qui ont été faites qui tendent à montrer qu'il existe chez l'homme des appariements qui se font de manière dépendante du HLA. Et même il y a une boîte qui s'était montée il y a quelques années qui s'appelait Scientific Match, qui était une boîte une agence matrimoniale dans laquelle vous envoyez votre un échantillon de salive et puis on allait vous matcher avec quelqu'un qui était complémentaire à votre HLA, et c'était la promesse d'une vie sexuelle épanouie et surtout d'avoir des enfants en bonne santé. Mais maintenant, quand on va sur le site de Scientific Match, donc ça c'était il y a quelques années, quand on va sur le site de Scientific Match, il y en a Site Temporarily Unavailable, je crois que ça n'a pas très bien marché en fait. Alors je sais pas, je suis peut-être un peu long là, j'ai encore un ou deux exemples, ça c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se fait aujourd'hui, hein. c'est des choses très récentes, c'est plus Wilson 1975, ça c'est Nature en 2008 peut-être, Et ça, c'est en fait une espèce de modèle que les chercheurs ont fait du mécanisme de reconnaissance des apparentés chez l'homme. Parce que, évidemment, si on veut avoir la sélection parentaire, si on veut être capable de reproduire ces gènes via des individus qui lui sont apparentés, c'est quand même mieux de pouvoir reconnaître les individus qui lui sont apparentés. Et donc, ça, c'est une proposition d'un espèce de système. Donc, vous voyez, hein, c'est modélisé, hein, il y a des boîtes et tout qui vous explique comment la machine homme fonctionne au niveau de la reconnaissance des individus apparentés. Et ce qu'il montre, en fait, c'est donc il y a co-résidence, donc un indice important de savoir si vous êtes apparenté avec quelqu'un, c'est est-ce que vous habitez avec lui. Alors, ça c'est en fait à l'enfance, quand vous êtes tout petit. Et un autre, et voilà, vous voyez, il y a différents facteurs qui rentrent, ça passe à travers un kinship estimator, donc un estimateur de parentèle, que vous avez dans le cerveau, c'est mouliné, et paf, après, vous pouvez en faire un indice qui va déterminer votre attraction, votre attirance sexuelle par rapport à la personne en question. Hein, il y a des tabous d'inceste chez l'homme, par exemple. Donc, c'est important de savoir si vous êtes apparenté à quelqu'un pour savoir si il vous attire sexuellement. Et puis, de savoir si vous allez avoir des comportements altruistes. Voilà, donc ça, c'est la machine qui a été proposée. Et ce qui montrait qui était assez intéressant quand même, c'est que ce facteur-là, qui est le Maternal Perinatal Association, c'est-à-dire le fait que quand vous êtes arrivé dans une famille, quand vous êtes arrivé tout petit dans une famille, la personne en question, la personne dont vous allez estimer le degré de parenté, était déjà présente et bénéficiait des soins de votre mère. Donc c'est un peu plus que la co-résidence, c'est le fait que vous ayez un grand frère ou une grande sœur. Et que vous l'ayez observé comme ça. Et en fait, on montre que, ce qu'il montre là, c'est que il y a tout un tas de comportements altruistes qui sont beaucoup plus importants si vous avez estimé que cette personne était présente quand vous étiez petit ou pas. Voilà, et donc ça c'était juste pour terminer. Il y a un livre qui traite de ça, qui est relativement récent et qui est assez rigolo à lire, qui est complètement parti pris, hein, qui prend ça très au sérieux et qui montre que il y a tout un tas de choses qu'on peut expliquer dans l'espèce humaine, enfin qui tente à montrer qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut expliquer dans l'espèce humaine par l'altruisme lié à la parentèle, mais aussi l'altruisme réciproque. Et donc, ça va des relations d'amitié à la morale, la religion et au comportement guerrier. Tout ça, c'est des choses qu'on essaie d'expliquer donc par la sociobiologie. Mais j'en ai déjà beaucoup dit, on pourra en reparler, mais je vais laisser Eric parler un petit peu.
Bah, il y a peut-être des réactions déjà sur...
Donc c'est une simplification très utile pour comprendre ce qui se passe de manière... C'est du réductionnisme, effectivement. C'est une simplification utile pour comprendre ce qui se passe dans une lignée qui évolue. Et effectivement, quand on fait ça, ce qu'on dit, c'est le reste, c'est l'environnement. Mais en fait, il y a partout des gènes qui évoluent tous de manière... différentes dans des espèces différentes avec des intérêts différents, ça c'est d'une complexité qu'on n'est pas capable en fait d'intégrer dans les modèles encore. Donc du coup on voit ça comme l'environnement et on dit voilà, toute chose étant égale par ailleurs, j'imagine le développement ou l'évolution de cette stratégie et je dis, voilà, ça doit se passer comme ça. Mais après, il me semble que cette complexité de l'environnement, c'est pas exclu qu'on puisse y intégrer des choses que vous... Donc typiquement les règles qu'on impose dans une société, c'est super important par rapport aux stratégies qu'on adopte dans cette société. Typiquement, moi il me semble, donc ce que vous voyez par exemple, il y a les religions, il y a la morale, il y a des tentatives d'expliquer les comportements moraux, donc d'expliquer les religions par rapport à ces principes-là. Donc typiquement les lois c'est quelque chose qui je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi cherche à renforcer dans une société comme la nôtre cherche à renforcer plutôt peut-être pas l'altruisme mais si peut-être l'altruisme, les comportements non violents entre les individus qui cherchent à établir une société harmonieuse dans laquelle on coopère plutôt qu'on se bagarre.
Pour la survie.
Non, mais justement pas pour la survie, justement pas pour la survie des espèces en fait. Pour la survie de l'individu, pour la survie du gène. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça s'expliquerait là, c'est-à-dire que tout se passe pas, si vous voulez, mais je sais pas si on ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, par rapport à cette boîte là, dont j'ai fait un peu, j'ai essayé de rigoler un petit peu à propos de ça, c'est, voilà, on a un estimateur de... on a tout un tas de trucs, tout un tas d'informations qui rentrent, et ça fait un estimateur de parenthèse. Bon. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en fait, on n'est pas capable d'intégrer toutes les informations qu'on a autour de nous en tant qu'organisme, mais on passe par des heuristiques, ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis qui nous permettent de prendre des décisions par rapport à un certain nombre de vécu par rapport au reste de la société, etc. Et par rapport à un certain nombre de règles qu'on nous a inculquées. Moi, il me semble que la loi, c'est en fait une heuristique de comportement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui renforce la cohérence de la société, mais c'est pas forcément quelque chose qui est déterminé, je m'embrouille un peu, mais c'est quelque chose qui finalement a été établi parce que c'était une manière d'avoir un raccourci pour avoir des comportements qui sont globalement bénéfiques à la société chez les individus. Alors, à l'individu, vous n'avez pas intérêt, en tant qu'individu, à vivre dans une société où tout le monde se tape dessus. Donc, finalement, préserver la société, c'est une manière de vous préserver en tant qu'individu. Après, vous pouvez avoir des comportements de tricheurs dans ces jeux. Mais vous prenez un risque et vous pouvez être puni par la société. Donc typiquement, donnant-donnant, c'est une espèce de règle qui se passe entre deux individus. D'accord ? Vous avez triché la dernière fois qu'on a joué. Bon, bah, cette fois-ci, je vais tricher. Mais de manière à préserver que les gens coopèrent entre eux, de manière à préserver mes chances que vous allez coopérer avec moi dans nos interactions, je peux tout à fait, et on peut tout à fait collectivement, décider qu'il va y avoir une peine plus grande pour les gens qui trichent. C'est-à-dire que non seulement vous allez, je ne vais pas rejouer avec vous, je ne vais pas coopérer avec vous la prochaine fois qu'on joue, mais en plus, vous avez une peine plus importante parce que vous avez triché.
Et ça c'est vrai, mais ça montre rien du tout par rapport à ce débat sur l'inéaki, c'est-à-dire que vous trouvez dans une situation où vous avez un développement qui s'est mal passé parce que un accident qui correspond en fait à une condition anormale du développement d'un être humain, hein, le fait de se retrouver complètement coupé d'une société. Le développement normal d'un être humain, c'est dans une société, c'est avec c'est comme ça que ça peut se voir. Donc, effectivement, vous avez cassé la machine là à un moment et vous avez non seulement vous brisez ce que vous appelleriez l'acquis, qui est tout ce que l'enfant a appris comme règles, etc., et tout ce qu'il a reçu comme amour, mais vous avez par la même occasion brisé le programme dans lequel les gènes s'expriment et dans lequel ils déterminent nos comportements. C'est-à-dire que moi je persiste à dire que il n'y a pas de débat inné acquis, ça c'est un faux débat. Tout est inné et tout est acquis. Tout est relatif à l'environnement. Tout ce qui est codé génétiquement est relatif à l'environnement dans lequel il s'exprime. C'est-à-dire que
Je vais laisser un exemple parce que c'est pas la norme justement. Ah, donc on a des jeunes qui font que les affaires de notre corps, hein, de notre cerveau, hein, ça parle bien beaucoup, hein, donc on peut parler,
ouais.
Mais sur les sous-sols, hein, on parle. Hein.
Oui, mais c'est un bon exemple, oui.
Un enfant qui ne voit personne ne parle pas. Quand je pense au âge, je parle aux jeunes, je ne parle pas. Donc les jeunes, on fait en sorte qu'ils puissent parler, on décide tout seul, ainsi les parents se chauffent, donc ils ne parlent pas.
Il y a une autre raison, c'est que quand un enfant humain vient au monde, il n'y a que 25% de son cortex. C'est énorme. Par rapport aux autres mammifères, on est les mammifères les plus dépendants pour notre propre finition, on va dire ça comme ça. Pendant les premières années de la vie, jusqu'à 4 ans, il y a encore plus de 70-80%, et il faut attendre 7 ans pour que l'enfant ait son volume du cortex entier. Par définition, s'il continue de se fabriquer dans les 7 premières années de la vie, ça vient effectivement complètement écraser le discours de l'inévacu. Et ça explique les différences entre les enfants sauvages, ça explique pourquoi l'acquisition du langage, qui est une fonction particulière par excellence, ne vient pas forcément quand l'enfant n'a plus personne dans les deux seuls, c'est parce que de toute façon, on n'est pas entier quand on est. Si on a fait le volume de notre cerveau à la naissance, nos femmes ont un latin, comme ça. On pourrait marcher. C'est pour ça que c'est un peu débat.
Ah, c'est pas tout à fait pour ça que c'est un faux débat, parce que ce que je disais, c'est pas relatif à l'humain en fait. C'est vrai pour tout vivant en fait.
Non,
bon, et je vais pas me lancer là-dedans. Je vais pas me lancer maintenant dans une longue intervention. Je pense que je vais juste faire un petit teasing de ce que je vais dire la prochaine fois, du coup, parce que ça rentre aussi pas si mal dans le thème de la prochaine fois, qui est une histoire de posture et d'imposture. Et parce que donc vous avez eu que une face de la pièce qu'on voulait vous montrer ce soir qui est une des raisons pour laquelle la biologie est une science sociale, c'est-à-dire que la biologie c'est une science qui empiète sur la sociologie, sur l'étude des sociétés. Et c'est une science, la deuxième raison pour laquelle c'est une science sociale, c'est que c'est une science qui est produite dans une certaine société, elle est produite par des gens. Alors, Vincent a commencé à raconter par qui cette science était produite là, à sortir quelques noms, les histoires de Dawkins, les histoires de Wilson, et puis, alors je voulais m'intéresser d'un petit peu plus près à qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils pensaient, et puis, dans quelle société ils vivent, quelles étaient leurs opinions, et à quel point ça permettait de comprendre mieux cette science-là. Et puis de comprendre mieux pourquoi, alors le thème de ce soir c'était la science dominatrice, c'est-à-dire que c'est, on l'a senti dans le débat là, les réactions qui étaient un petit peu interloquées et puis un petit peu hostiles parfois, je pense que c'est dû à ce que c'est une science dominatrice, c'est-à-dire que c'est une science qui empiète sur beaucoup de choses et c'est vrai, c'est complètement assumé par les fondateurs de cette science-là, c'est... Pour eux, tout est objet d'études scientifiques, la morale, la religion, tout ce qui est la guerre, la violence, les relations entre les hommes et les femmes, les relations sociales, l'art aussi, l'action politique évidemment. Ils se prononcent sur vraiment tout, sur la démocratie, sur la xénophobie, sur la prostitution. Tout devient un champ d'études scientifiques. Alors, c'est et biologique aussi. C'est pas un mal en soi. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison pour laquelle la science devrait s'interdire certains domaines d'études. Mais c'est quand même une volonté assez expansionniste, assez dominatrice. Hein, et non seulement donc tout est objet d'études scientifiques, mais effectivement tout est objet d'études biologiques. Et pour que tout soit objet d'études biologiques, il faut que tout soit biologique et que, effectivement, on accorde beaucoup d'importance à ce qui nous vient de nos gènes, ce qui nous vient de notre passé, ce qui a été optimisé. Donc, et là déjà, on dérive, pour que cette science-là ait de l'importance, il faut que la biologie ait de l'importance. Et puis alors on retrouve en plus des citations qui commençaient à mordre sur pas mal de domaines sociaux qu'a donné Vincent, Wilson, qui est considéré comme le chef de file de la sociobiologie, qui a écrit plusieurs livres sommes, c'est Edward Wilson, il s'appelle, plusieurs livres sommes sur la sociobiologie et qui a beaucoup été attaqué pour ça. Alors pour ça, pour cette science-là d'abord, et puis aussi parce que, on va voir ça... il peut raconter, les gènes tiennent la culture en laisse. Alors, qui est la version très très orientée de ce que Vincent disait en disant, les organismes sont issus d'un programme génétique qui s'exprime dans un environnement. Mais pour faire de la sociobiologie, on a besoin qu'il y ait quelque chose quand même qui domine sur l'autre et que les gènes tiennent la culture en laisse et que la biologie soit la clé de la nature humaine. Et ce qui fait que c'est une volonté tellement expansionniste que même il restait plus grand chose aux autres, c'est-à-dire que les biologistes, les sociobiologistes, au moins dans les années 70, au moins à l'époque où Wilson a écrit ses livres, étaient persuadés que cette science allait recouvrir toutes les autres, que c'était on a pu lire la biologie est la plus signifiante de toutes les sciences, ou alors la formation de la pensée moderne est marquée. Est marqué dans tous les domaines par l'avènement de la théorie de l'évolution, philosophie, religion, politique. Donc, la théorie de l'évolution allait tout expliquer. Et Dawkins, qu'a cité Vincent aussi, allait même jusqu'à dire que toutes les tentatives antérieures à 1859 pour répondre à la question « qu'est-ce qu'un homme ?» ne valent rien. Nous n'en saurions que mieux si nous les ignorions complètement. C'est-à-dire, 1859, c'est l'apparition de l'origine des espèces de Darwin. Et il fait référence à cette date-là. Donc, tout ce qui a été dit avant ne vaut rien parce que il y a la biologie, la théorie de l'évolution et la sociobiologie pour répondre à tout ça. Ce qui est d'autant plus gonflé qu'en 1859, dans l'Origine des espèces, Darwin ne traite pas du tout de la question qu'est-ce qu'un homme, mais on a l'impression que c'est ça qui donne le point de départ à tout ça. Il s'ensuit des tentatives de dominer tout le champ scientifique et tout le champ des sciences humaines en plus. Wilson emploie le terme cannibaliser pour dire que la sociobiologie va s'occuper de toutes ces sciences-là, et puis ensuite de déborder largement sur l'action politique et la morale, parce que avec toute cette somme de connaissances derrière eux et toute cette force explicative de la société, évidemment, ça serait bien dommage s'ils n'avaient pas des prescriptions à nous faire sur la façon dont on doit vivre. Je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, vous voyez, on peut.
On attend encore.
Ouais, mais on va pas recommencer une. Non. On attend pour des questions, ouais, mais je vais pas commencer une longue intervention maintenant, c'est un peu tard.
À discuter de. C'est-à-dire que pour les sociobiologistes, on peut même intégrer toutes les autres sciences dans la sociobiologie, parce que elles sont toutes le produit de cerveaux qui ont évolué selon des contraintes qui sont les contraintes de l'évolution pendant des millions d'années, quoi. Donc finalement les fabrications mentales, les objets mentaux dont sont capables nos cerveaux sont quelque part déterminés par l'évolution. Donc vous voyez comme ça peut tout englober, quoi.
Et y compris la philosophie, évidemment, parce que la philosophie s'est beaucoup intéressée à la question de la nature humaine. Mais voilà, rien de ce qui a été dit avant 1800. Alors voilà, vous avez senti un petit peu cette volonté expansionniste même dans l'exposé de Vincent, et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça.
Oui, je voulais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le mot que vous avez posé, sur l'épigénétique.
Alors, je sais pas à quel moment j'ai parlé de
l'épigénétique. Ça a parlé dans les...
C'est peut-être. Bon, l'épigénétique, disons, d'une manière générale, c'est tout ce qui est... ça revêt différents sens, mais c'est tout ce qui n'est pas, encodé directement dans le génome, mais je dirais... énormément de choses qui peuvent être épigénétiques, mais ce qui intéresse les biologiques en général, c'est ce qui est épigénétique et héréditaire. Ce qui est à la fois épigénétique et héréditaire. C'est-à-dire des caractères qui ne sont pas tout à fait typiques par rapport à ce qu'on étudie en évolution, parce qu'ils ne sont pas codés dans le génome, mais qui sont transmis d'une génération à l'autre. C'est une transmission de l'acquis. Oui. C'est une transmission de l'acquis. Si on veut. Ouais. Donc, on commence à décrypter pas mal ça. C'est un champ qui est un peu en explosion là. Ça fait un petit moment qu'on avait des indices de ça, mais là il y a tout un tas de choses qu'on a découvertes récemment qui sont vraiment des facteurs épigénétiques importants qu'on peut caractériser, qu'on peut isoler, etc., et qui sont transmis notamment de mère à enfant, etc., et donc il y a une espèce d'hérédité comme ça que vous pourriez dire innée, effectivement, mais qui n'est pas codé de manière durable dans le génome.
Est...
Alors, on peut voir la culture comme, une, comme de l'épigénétique, mais là, c'est à quoi je faisais référence, en fait, c'est vraiment au niveau moléculaire. Alors, bon, je pense pas qu'on puisse envisager qu'il y ait de l'acquis culturel qui passe comme ça, mais par contre, des choses qui influencent l'expression des gènes, bon, j'ai pas d'exemple très précis comme ça à vous donner là maintenant.
Ouais, mais la question c'était pas si la culture était codée dans les molécules, mais si ça s'inscrivait dans ce schéma général de transmission de l'acquis, ça oui.
Ouais,
tout le raisonnement. Cette volonté de domination de la sociobiologie envers toutes les autres sciences est a priori vouée à l'échec à cause d'impossibilités techniques parce qu'on ne doit pas employer tel langage pour dans tel...
C'est... Oui, vous voyez, si vous voulez, du langage humain, le langage il porte même des concepts. Et par les questions qu'on résout, ce sont parce qu'on a les raisons, et par les questions, les problèmes qu'on crée, n'existe parce qu'on les termes quelque part. On peut prendre les questions que uniquement si on tient les éléments qui participent à sa réponse. Donc c'est pareil pour le langage si on avance dans un domaine nouveau, et si on ne crée pas mesure une vie propre à ce domaine-là, on peut pas utiliser les opposés à d'autres modèles qui sont moins complexes ou en tout cas différents du milieu dans lequel on explore, si vous voulez. Et c'est vrai pour toute la famille, c'est vrai pour l'acquis, c'est vrai pour l'idée. Et on va s'en prendre en cause aussi. C'est pas si simple que ça, c'est vrai.
Ouais, alors.
Entre la sociologie et la voilà, ce qu'il y a, c'est que la sociobiologie a pour ambition d'expliquer tout un tas de choses qui sont observées, y compris par les sociologues, c'est-à-dire des observations qui peuvent être mises en chiffres, etc. Donc c'est pas tellement un problème de langage, les questions posées, en fait. Ce qui se passe, c'est que la sociobiologie, et je ne vous ai pas parlé de ça, elle a, enfin, je vous en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas dit comme ça, elle a pour ambition d'identifier ce qu'elle appelle les causes primales, ou les causes premières de ce qu'on observe. Alors que, par exemple, avant la sociobiologie, la biologie des comportements ou l'éthologie essayait d'expliquer toute une variété de choses, dont ce qu'on appelait des causes proximales, donc des causes immédiates au comportement. Vraiment, la sociobiologie, l'idée, c'est le reste. Enfin, c'est vraiment un raccourci qui est vraiment assez terrible, qui est le reste, on l'ignore complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la finalité de ce comportement et pourquoi il a été sélectionné. Et finalement, les chemins que ça prend, etc., c'est souvent ignoré, en général ignoré. Donc, par rapport à la sociologie, par exemple, c'est pas le même degré de finesse. J'arrive avec mes gros sabots de ma théorie de la sélection naturelle et je dis oui, mais dans le fond, si les gens font ça, c'est parce que ils veulent transmettre leurs gènes. Pardon? Ouais, moi je pense pas que ça soit une bonne idée de remplacer la sociologie par la sociobiologie. Hein.
Non, mais pourquoi remplacer par une nouvelle discipline?
Ouais, mais c'est l'ambition de la sociobiologie. Hein. La sociobiologie dit ça suffit. On arrête de rigoler avec les sciences humaines là. Vous êtes bien amusés, mais nous, on est des scientifiques sérieux, on est des biologistes, on sait modéliser les choses, on a la théorie de la sélection naturelle, la théorie de l'évolution qui est extrêmement puissante et très, je veux dire, très facile à formaliser. C'est un outil formidable pour expliquer tout un tas de choses. On a cet outil-là. Et on va vous montrer que, en fait, avec cet outil, on est capable d'expliquer tout ce sur quoi vous êtes en train de discuter depuis des siècles.
On est sûr de tout connaître. J'avais un tout petit peu long, je m'en excuse par avance, c'est un peu long à expliquer. Il y a une expérience qui a été menée sur la théorie du consentement, sur des bases biologiques, qui sert encore toujours en politique. L'expérience était la suivante, on met deux groupes, on les sépare dans une salle dans une autre. Dans la première salle, on en discute librement avec les gens, de la pluie, beau temps, du sport, de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent manger, voilà, des choses banales. Dans la seconde salle, on leur parle de la mort, on leur demande ce qu'ils aimeraient pour leur funérailles, on leur demande ce qu'ils aimeraient qu'on fasse de leur corps, on leur demande s'ils veulent faire des proches, on les discute un peu. Et juste après, aux deux groupes, on leur passe un discours qui, dans cet écran-là, s'avérait être un genre de levée-bouche, dans lequel j'explique que ceux qui ne sont pas patriotes ne sont pas bien, que donc c'est très moral, mais dans le moral, de religion, n'est pas très bien. Voilà. Je n'ai pas le discours précis en tête, mais donc, c'est très bien que je parle, mais tous en train de voir. Et il s'avérait que le groupe avec qui on avait posé des questions malades, était à majorité pas d'accord avec ce texte, ils n'adhéraient pas avec le discours, et ceux à qui on avait menacé ou menacé en effet peur étaient plutôt d'accord avec ce texte, et oui, il faut combattre les nids, ils partaient en guerre. Et l'étude qui venait juste derrière expliquait que c'était biologiquement expliqué, et c'est là que je deviens marrant, et que j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur à quel point on se noter, sur quel point on était, voilà, des choses. Ouais. Il explique que la peur maltraitait le système limbique et qu'il y avait une substance qui était capable de remplacer dans les synapses la transmission de cette idée de peur, et cette substance était générée par le cortex préfrontal, et que pour stimuler la production de ce neurotransmetteur particulier, trois types de discours fonctionnaient: le perfectisme, la morale et la religion. Et
problème systématiquement très moralisateur, très sur je me donne l'aspect mystifoire, voire je me déifie pour avoir le consentement des gens. Et le troisième, l'aspect c'est mon pays, c'est mon identité, c'est ma communauté, et quelque chose de très, très identitaire également. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est avéré, ce fonctionnement-là? Est-ce que on est dans le domaine de. On utilise la biologie à des fins de domination? Voilà, on en est là-dessus.
Ouais, alors c'est difficile de prononcer sur cette expérience-là, enfin, sauf si tu la connais, mais
je sais que par exemple dans The Origins of Virtue, Matt Ridley parle des comportements guerriers et nationalistes en expliquant qu'en fait c'est les situations. Je vous ai parlé un peu de groupe. Et je vous ai dit, ça marche pas, la sélection de groupe. En fait, c'est les situations où on a des dynamiques de groupe. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens coopèrent, donnez-leur un ennemi. Voilà, il y a une idée comme ça qui fonctionnerait assez bien. C'est-à-dire que on peut fabriquer des groupes en les mettant dans une adversité. Donc ça, typiquement le nationalisme, c'est une manière de scinder, de souder un groupe au détriment d'une cohérence plus grande. C'est-à-dire, en allant faire la guerre à mon voisin, je resserre les liens au sein de la société. Donc et après, par rapport à cet exemple-là en particulier, je dirais, oui, si on est...
On avait vu une expérience aussi où qui montrait que le lien entre la réaction de peur, parce qu'il y avait un lien entre la peur.
Ouais.
Alors la réaction entre les opinions politiques, ouais. Et puis la réaction qu'on peut avoir de peur je ne sais plus exactement ce que c'était que l'expérience, mais mettons qu'on essaie de faire peur à quelqu'un en arrivant derrière lui et puis en lui criant dessus, et puis plus les gens sursautent, plus ils votent à droite. Et les gens qui n'ont pas peur, c'est ceux qui votent à gauche. Bon, moi je me souviens aussi d'un film de Woody Allen où le fils du personnage joué par Woody Allen était républicain et il comprenait pas pourquoi et il adhérait aux jeunesses républicaines et puis lui c'était un démocrate, il comprenait pas pourquoi son fils avait ce penchant là et puis jusqu'au jour où il fait une radio qui lui voit un petit caillot dans le cerveau, il le retire et puis il devient démocrate. Pour moi c'est un petit peu du même acabit.
Non mais il y a des expériences quand même qui sont faites. Là je disais un truc récemment là. Même type de choses, c'est-à-dire on donne des explications évolutionnistes à ça, hein, qui peuvent être complètement délirantes, hein, mais c'est vous mettez 10 personnes dans une pièce. Et puis il y a 9 acteurs et puis un type qui est en fait le sujet de l'expérience mais qui ne sait pas. Et vous leur montrez par exemple, vous leur montrez un film ou n'importe quoi. Et puis ensuite vous leur montrez une carte. Je crois que c'était ça, ce qui est représenté sur une carte. Et ensuite vous interrogez tout le monde sur ce qui est écrit sur la carte. Et en fait vous vous rendez compte que si la personne est la dernière à parler et que tous les autres ont dit quelque chose, se sont mis d'accord en fait, et ont dit quelque chose qui n'était pas présent sur la carte, la personne qui est là va finir par dire, dans 9 cas sur 10, qu'elle a vu la même chose que les autres. Et si on lui demande si elle a été influencée par ce qu'ont dit les autres, elle va dire non.
Et, donc,
en toute bonne foi, mais c'est parce que... Et alors l'explication sociobiologique de ça, c'est que finalement... enfin, sociobiologique, c'est pas forcément, mais c'est une bonne heuristique, encore une fois, c'est un bon raccourci pour prendre une décision d'avoir consulté un certain nombre d'autres personnes, et éventuellement, ça peut prendre le pas sur votre savoir à vous. Donc, vous pouvez accepter que vous êtes trompé par vos sens si un grand nombre de personnes vous disent le contraire de ce que vous avez vu. Donc, dans cette situation-là, peut-être que c'est un peu semblable à ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est pareil, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est bouffé par les médias qui nous racontent que c'est la crise et qu'on se déteste tous et qu'on va vers des comportements égoïstes et finalement...
Vous savez, ma question, c'était de vous pour individualiste. Et c'est juste un bémol de se méfier de deux choses, de la façon dont vous ressentez la réalité et de la façon dont nous réécrivons en perpétuellement le passé. Et tout le monde s'accorde avec ce qu'on en termes de crise. Quand vous avez compris, le très vivant.
Vous voyez qu'il y avait quelqu'un qui s'est parlé.
Oui, je me demandais, qu'est-ce que vous par la sociologie biologique ? Je ne sais pas comment en fait le lien avec le thème du moment, c'était la science dominatrice.
La science dominatrice ? C'est vrai que c'est quelque chose dont on a plus parlé dans le débat que dans ce que je vous ai montré. Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que ce que je vous ai montré, c'est des absurdités. Hein. C'est y a des choses vraiment intéressantes là-dedans. Mais voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que cette science-là, c'est une science dominatrice. Hein. C'est une science qui a ambition à prendre le pas sur toutes les autres et en particulier qui a ambition à nous dire des choses sur la politique et la manière dont on doit régler notre société. Les conservateurs en général sont assez contents de reprendre des résultats de la sociobiologie avec en y ajoutant toujours le truc si c'est naturel c'est bien hein, si on l'observe, si c'est une loi naturelle d'observer ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller contre.
Et au point d'aller par exemple chercher le code génétique et puis faire des mariages uniquement par code génétique interposé.
Ouais, je sais pas. Peut-être les Raéliens font ça. Je sais pas, ça serait bien un truc pour eux.
Hein.
Ils font des clones, mais ils pourraient faire des appareillements comme ça.
Non, mais ça c'est des tendances eugénistes, mais la société qui vit en fonction des préceptes de la sociobiologie, c'est à peu près la nôtre, parce que les sociobiologistes ont effectivement tendance à être conservateurs et à justifier par des lois naturelles ce qu'on observe et à prescrire de rien changer parce que, étant donné qu'on vit selon des habitudes, qu'on peut expliquer tous nos comportements par une optimisation des gènes qui a des millions d'années, ça serait très dangereux de changer ça. Alors, pas toujours. On pourra vous parler d'exemples où ils plaident pour des petits changements. Par exemple, assez souvent, ils sont plus libéraux en matière sexuelle que la norme conservatrice. Ils plaident pour une sexualité un petit peu plus libérée, en expliquant que c'est bien naturellement que les religieux n'ont pas tout à fait compris le but ultime de la sexualité et donc ont eu tort de réfréner ce penchant-là de l'humanité.
Mais c'est parce que c'est des hommes qui
oui, c'est, exactement, oui. Tout ça peut très bien s'expliquer par la position sociale et le sexe des gens qui ont inventé ça.
Mais ça, c'est une explication sociobiologique de leur comportement.
Oui, c'est une des rares choses qu'ils n'expliquent pas par la sociobiologie, c'est la sociobiologie. C'est bien de finir dessus parce que ce qu'on essayait de montrer, effectivement, pour répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure, c'est pas de présenter la science pour taper dessus, mais c'est de présenter aussi ce qu'elle a d'intéressant. Le réductionnisme, c'est pas forcément inintéressant, et de présenter les deux facettes, que d'abord c'est une science qui peut produire des résultats passionnants. Qui peut produire des explications qui sont tout à fait satisfaisantes et en même temps qui peut glisser vers la domination. Et c'était pour le sens de cette série de cours aussi, c'est d'explorer les relations entre la science et le pouvoir. On avait parlé la semaine dernière des scientifiques qui étaient soumis au pouvoir, et ben là c'est le cas de scientifiques qui essaient de prendre le pouvoir. Les deux parties, on voulait les appeler au départ aussi la science du pouvoir et la science au pouvoir. Comment on passe de la science du pouvoir, c'est-à-dire la science qui explique les relations de domination, à la science au pouvoir, c'est-à-dire la science qui essaie de prendre sa part dans ces dominations sociales.
Non,
là, je vais m'amuser à commenter ou à dire, ou à se approprier les choses. Et comment, en fait, on s'en fait une posture ou quelque part, ou même si vous voyez, quelque part, dans le site, il n'y a pas de terminer, mais à la télé, il n'y a pas d'indépendance, donc on a quelqu'un qui discute en lien, alors qu'est-ce que c'est, ceci, cela. Après, il dit, si vous ne commentez pas, et bien, comment, donc, c'est derrière, hein, on va voir, hein, comme il dit, comme la génétique, comme. La production par même les collectivités, soit la fonctionne de dire d'abord maintenant il y a quand même une idée, donc maintenant je peux me faire une opinion de la chose. Quoi. Et bien souvent, bah, on ne va pas plus loin que ça, mais on va la fonction de dire de s'approprier les choses, de moins un minimum d'effort, et aussi de pouvoir fixer les choses qui sont sans être pour autant ni la capacité, ni la professionnalité, ni la connaissance de la chose absolue. Mais la chose, du choix de se faire. Et là, c'est terrible parce que cette émancipation-là, elle part carrément du technicien, elle part par limiter les concepts du technicien pour quelqu'un qui n'est pas technicien, pour quelqu'un qui ne sera jamais, qui n'a pas la prétention à être aussi fort que celui qui cause.
Oui, bah écoutez, c'est, peut-être que ce qu'on fait ce soir, ça apporte une réponse à vos interrogations. J'espère qu'on vous a pas donné l'impression d'être des doctes qui parlent au petit peuple. Les scientifiques qui sont assez souvent spécialisés sur un domaine, mais pour avoir l'impression de quand même comprendre le monde à partir de ce domaine-là, on dit que c'est vraiment le domaine le plus important pour et puis du coup de faire de l'expansion. Aussi, ouais. Alors là, je suis pas sûr qu'on puisse expliquer la sociobiologie par les décisions politiques, parce que il n'y a pas eu de décision politique de découvrir la théorie de l'évolution, ça je crois pas, hein. C'est
en tout cas que les décisions politiques en général quand même des fois on se plaint mais on laisse quand même aux scientifiques suffisamment de latitude pour qu'ils puissent développer des sciences par eux-mêmes. Je pense pas que ce soit vraiment du tout des décisions politiques qui font ça. Après, voilà, il y a des scientifiques qui décident de travailler sans argent dans un domaine où, et effectivement, la sociobiologie, c'est pas forcément un domaine sur lequel on va obtenir énormément d'argent si on travaille avec. Mais voilà, c'est en ça qu'on dépend de la politique, en fait. C'est par rapport au financement. Mais enfin, il n'y a pas de décision politique qui dit je valide ou je valide pas un champ de recherche.
Non, mais c'est juste intéressant de savoir la nature du financement qu'il y a derrière, savoir l'importance que la politique accorde.
Alors après, ouais, ça c'est intéressant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des financements privés. Et il y a de temps en temps des organismes financeurs qui ne sont pas désintéressés des résultats d'une science. C'est-à-dire que il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a des organisations féministes bien sûr, hein, je ne vais pas vous parler de la pharmaceutique, etc., et de la manière dont c'est financé science, mais pour des raisons idéologiques, on peut financer certaines sciences. Et la sociobiologie, ça ne serait pas étonnant qu'il y ait, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des gens qui ont un intérêt politique qui financent les recherches en sociobiologie.
Alors, je peux vous demander, en ce sens, que vous avez des amis, vous avez des laboratoires qui vont, vous avez tous les moyens qui vont que le domaine de recherche en fonction des intérêts des animaux, et qui n'est pas un intérêt d'argumentation idéale.
On va peut-être pas rebondir là-dessus parce que on va s'arrêter là. Merci pour votre fidélité, à bientôt.